Bonjour, ici Chantal Hébert pour l'émission Je vous emmène sur Globule Radio 90.5 FM. Je vous retrouve cette semaine pour la fin du roman Les huit montagnes de Paolo Cognetti. Résumé de la première partie du chapitre 12. Piero rentre de Katmandou pour être avec Bruno. Il achète une paire de raquettes pour monter à la Barma et l'y retrouver. Pour la première fois, il découvre sa montagne sous la neige. Le torrent, la forêt, le lac gelé. Bruno s'est mis à apprendre à skier avec une vieille paire trouvée dans l'alpage de son oncle. Les deux amis sont très heureux de se retrouver, mais Bruno ne parle pas beaucoup. Piero décide de repartir à Milan, un peu déçu. Chapitre 12, deuxième partie. En décembre, je décidai de rendre visite à Lara. Je remontais sa vallée un jour qu'il neigeait à peine, au début de la saison de ski. Le paysage n'était pas si différent de celui de Grana d'ailleurs, et sur la route, je me dis que toutes les montagnes en quelque sorte se ressemblent. Mis à part que rien, là-bas, ne me parlait de moi ou de quelqu'un que j'avais aimé. Et c'était là toute la différence. La façon dont un lieu conservait l'histoire de chacun. Comment on réussissait à la relire à chaque fois que l'on y remettait les pieds. Une montagne comme celle-là, il ne pouvait y en avoir qu'une dans la vie. Et toutes les autres à côté n'étaient que des sommets mineurs. Même l'Himalaya. Il y avait une petite station de ski au début de la vallée. Deux ou trois remontées en tout. De celles qui, avec la crise économique et les changements climatiques, survivaient toujours plus difficilement. Lara travaillait là, dans un restaurant de style alpin, au point de départ des télésièges. Une fausse baïta, aussi surfaite que les pistes de neige artificielles. Elle vint me serrer dans ses bras avec son tablier de serveuse et un sourire qui n'arrivait pas à cacher la fatigue. Elle était jeune, Lara. Elle avait à peine franchi le cap de la trentaine, mais faisait depuis longtemps une vie d'adulte, et ça se voyait. Il n'y avait pas beaucoup de skieurs, et après avoir demandé la permission à son autre collègue, elle vint s'asseoir à ma table. En parlant, elle me montra une photographie d'Anita, une petite fille blonde, fluette, tout sourire, les bras autour d'un chien noir plus grand qu'elle. Elle me raconta qu'elle l'avait inscrite en première année de maternelle. Ça n'avait pas été facile de la convaincre à se conformer à certaines règles. Au début, elle était comme une petite sauvage. Soit elle se disputait avec quelqu'un, soit elle se mettait à hurler, soit elle s'asseyait dans un coin et ne parlait plus de la journée. Elle commençait peut-être bien à se civiliser maintenant. « Lara rit », elle dit. « Mais ce qu'elle préfère, c'est quand je l'amène dans une ferme. Là, elle se sent vraiment à la maison. » Elle laisse les veaux lui lécher les mains, tu sais, avec leur langue râpeuse, et elle n'a même pas peur. Pareil pour les chèvres, les chevaux, elle est à l'aise avec tous les animaux. J'espère qu'elle gardera au moins ça, qu'elle ne l'oubliera jamais. Elle s'arrêta pour boire une gorgée de thé. Je vis qu'elle avait les doigts rougis autour de la tasse et les ongles tout rongés. Elle regarda le restaurant autour d'elle et dit « Je travaillais ici quand j'avais 16 ans déjà, tu sais ?» Tout l'hiver, le samedi et le dimanche, pendant que mes amis allaient skier. Je détestais ça. « Il y a pire comme endroit, » dis-je. « Non, il n'y a rien de pire. Je n'aurais jamais pensé devoir y remettre les pieds un jour. Mais comme on dit, parfois, quand on veut avancer, il faut savoir revenir sur ses pas, à condition d'être assez humble pour le reconnaître. » Elle parlait de Bruno maintenant. Quand nous entrâmes dans le vif du sujet, elle ne mâcha pas ses mots. Deux ou trois années en arrière, me dit-elle, quand il était évident que l'entreprise coulait, ils auraient encore pu se retourner. Vendre les vaches, louer l'alpage, trouver chacun une place au village. Quelqu'un comme Bruno, il l'aurait engagé sur le champ, dans un chantier ou une fromagerie, même sur les pistes de ski. Lara aurait pu trouver une place de vendeuse ou de serveuse. Elle était prête à faire ce choix-là, prête à retrouver une vie normale tant que la situation ne se serait pas améliorée. Bruno, par contre, n'avait rien voulu savoir. Dans sa tête, il n'y avait pas d'autre vie possible. Et Lara avait fini par le comprendre. Face à la montagne, ni elle, ni Anita, ni ce qu'elle croyait avoir construit avec lui là-haut, ne faisait le poids. Un jour où elle avait compris ça, elle avait commencé à projeter un avenir loin de Grana avec la petite et sans Bruno. Elle dit « Parfois, l'amour meurt à petit feu. Parfois, il s'en va d'un coup. C'est comme ça, non ?»« Bof, j'y connais rien à l'amour, moi, » répondis-je. « Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je suis montée le voir. Il est là-haut, à la Barma. Il s'est installé, il refuse de descendre. » « Je sais, » dit Lara. « C'est le dernier des montagnards. Je sais pas quoi faire pour l'aider. Laisse tomber. On ne fait pas boire à un âne qui n'a pas soif. Laisse-le là où il est, puisqu'il tient à y rester. » Elle prononça ces mots, puis regarda la pendule, échangea un regard avec sa collègue au comptoir et se leva pour reprendre le travail. Lara, la serveuse. Je me la rappelais quand elle surveillait ses vaches sous la pluie, fière, immobile, sous son parapluie noir. « Embrasse Anita pour moi, » dis-je. « Passe la voir avant qu'elle ait 20 ans. » Et sur ces mots, elle me serra dans ses bras un peu plus fort qu'avant. Il y avait quelque chose dans son étreinte qu'il n'y avait pas dans ses mots. Une émotion, peut-être. Ou une nostalgie. Je passais la porte au moment où les skieurs débarquaient pour déjeuner, avec leurs casques, leurs combinaisons et leurs bottes, tels des extraterrestres. La neige arriva, soudaine et abondante, à la fin du mois de décembre. Le jour de Noël, il neigeait même à Milan. Après le repas, je regardais par la fenêtre, le boulevard de mon enfance avec les rares voitures qu'il empruntait, hésitantes, quelqu'un qui faisait une embardée et restait planté au milieu du carrefour. Des enfants se lançaient des boules de neige. De petits Égyptiens qui la voyaient peut-être pour la première fois. Dans 4 jours, un avion me ramènerait à Katmandou. Mais j'étais loin de penser au Népal. Je pensais à Bruno. J'avais l'impression d'être le seul à le savoir là-haut. Ma mère me rejoignit près de la fenêtre. Elle avait invité ses amis pour le repas, lesquels bavardaient à table, un peu éméchés, en attendant le dessert. Il y avait de la joie dans cette maison. Il y avait la crèche qu'elle faisait chaque année avec la mousse qu'elle ramassait l'été à Grana, la nappe rouge et le mousseux et la compagnie. Une fois encore, je lui avais envié son talent pour l'amitié. Elle ne comptait pas du tout vieillir seule et triste dans son coin. Elle dit « À mon avis, il faut que tu réessayes. » « Je sais, » répondis-je. « Ce que je ne sais pas, en revanche, c'est si ça sert à quelque chose. » J'ouvris la fenêtre et mis une main dehors. J'attendis qu'un flocon se pose dans ma paume, mouillé et lourd. Il fondait tout de suite au contact de la peau, mais qui sait comment la neige serait 1000 mètres plus haut. Le lendemain, j'achetai des chaînes sur l'autoroute et une paire de raquettes dans le premier magasin de la vallée et rejoignis la file de voitures qui arrivait de Milan et de Turin. Toutes ou presque avaient des skis sur le toit. Après des hivers de vaches maigres, les skieurs accouraient à la montagne comme pour la réouverture de la fête foraine. À l'embranchement, aucune ne prenait la direction de Grana. Quelques virages me suffirent pour ne plus voir personne, puis quand la route tourna derrière le rocher, j'entrai de nouveau dans mon vieux monde. Il y avait de la neige contre les étables et les murs en rondins des granges. De la neige sur les tracteurs, sur la tôle des cahutes, sur les brouettes et les tas de fumier. De la neige qui remplissait les ruines et les cachait presque. Au village, un petit chemin avait été creusé entre les maisons. Peut-être était-ce l'œuvre des 2 hommes que je vis sur un toit, occupés là aussi à débarrasser la neige. Ils levèrent la tête et ne daignèrent pas me saluer. Je garai la voiture quelques mètres plus haut, à l'endroit où le chasse-neige s'était arrêté et avait peut-être déclaré forfait, après avoir dégagé l'espace suffisant pour tourner et rebrousser chemin. J'enfilai mes gants parce que ça faisait quelque temps que mes doigts avaient commencé à geler. J'attachai les raquettes à mes chaussures de marche, escaladai le mur de neige durci qui barrait la route et me retrouvai de l'autre côté, dans la neige fraîche. Je mis plus de 4 heures à faire un sentier qui l'était m'en prenait moins de 2. Même en raquette, je m'enfonçais dans la neige presque jusqu'aux genoux. J'avançais de mémoire, devinant la ligne aux formes que dessinaient les arrondis et les pentes, à un passage plus évident entre les sapins en branches chargées, sans une trace à suivre, ni mes points de repère sur le terrain. La neige avait noyé la ferraille des téléphériques, les murets disjoints, les tas de pierres sortis des prés, les souches des mélèzes séculaires. Du torrent, il ne restait plus qu'un affaissement entre les deux bosses molles que formaient les rives. Je le traversais au hasard en faisant un saut dans la neige fraîche et tombais en avant sur les bras sans me faire le moindre mal. Passé de l'autre côté, la pente montait plus raide, si bien que je glissais vers le bas tous les 3 ou 4 mètres, traînant derrière moi une petite avalanche. Je devais alors y aller avec les mains, planter les raquettes comme si c'était des crampons, réessayer plus franchement. Ce n'est qu'une fois arrivé à l'alpage de Bruno que je pus me faire une idée de la quantité de neige. Les fenêtres de l'étable dépassaient à moitié. Mais le vent avait balayé la face tournée vers l'amont, formant une galerie de la largeur d'un pas où je m'arrêtais pour reprendre mon souffle. L'herbe de ce bref tronçon était sèche et morte, grise comme les murs de pierre. Il n'y avait pas de lumière et nulle autre couleur que le blanc, le gris et le noir, et il continuait de neiger. Parvenu en haut, je découvris que le lac avait disparu au même titre que le reste. Il n'était plus qu'une combe enneigée, un doux replat au pied de la montagne. Pour la première fois après toutes ces années passées à le contourner, je pris tout droit en direction de la Barma. C'était étrange de marcher sur toute cette eau. J'étais presque à mi-route quand j'entendis qu'on m'appelait. « Oh !» entendis-je. « Berio !» Je levai les yeux et vis Bruno beaucoup plus haut que moi, une petite silhouette au-dessus de la ligne des arbres. Il agita les bras et se précipita en bas à la seconde où je lui rendis son salut. Et je compris alors qu'il avait des skis aux pieds. Il dévalait la pente en diagonale, les jambes écartées, sans aucun style, exactement comme il le faisait l'été sur les névés. Il tenait aussi ses bras à l'horizontale et le buste penché en avant dans un équilibre précaire. Devant les premiers mélèzes, je le vis basculer d'un côté et tourner de façon décidée, éviter le bois en prenant par le haut jusqu'au couloir principal du Grenon, et s'arrêter là. Dans ce couloir, l'été, un petit torrent coulait. Mais en cette saison, il n'y avait plus qu'une large piste recouverte de neige qui descendait tout droit sans obstacle jusqu'au lac. Bruno évalua le reste de la pente, pointa ses skis dans ma direction et reprit sa course toujours aussi décidée. Dans le couloir, il prit aussitôt de la vitesse. Je ne sais pas ce qu'il lui serait arrivé s'il avait trébuché et était tombé là, en plein milieu. Mais il tint bon, fonça dans la combe et ralentit peu à peu sur la neige qui s'aplanissait, arrivant jusqu'à moi par la force de l'inertie. Il transpirait et souriait. « T'as vu ça ?» dit-il, à bout de souffle. Il leva un ski qui pouvait être vieux de 30 ou 40 ans, on aurait dit une relique de guerre. Il dit « C'est en descendant chercher une pelle dans la cave de mon oncle que je les ai trouvés. Je les avais toujours vus là, je ne sais même pas à qui ils étaient. Mais tu viens de t'y mettre? Ça fait une semaine. Et tu sais ce qui est le plus difficile? Il ne faut jamais viser un arbre quand tu descends dans sa direction. Autrement, tu peux être sûr que tu lui rentres dedans. » « T'es taré, » dis-je. Bruno rit et me donna une tape sur l'épaule. Il avait la barbe longue, grise et les yeux brillants d'euphorie. Il avait dû perdre du poids parce que son visage me paraissait plus anguleux que jamais. « Au fait, joyeux Noël !» dit-il, avant d'enchaîner. « Viens, viens !» Comme si nous nous étions rencontrés par hasard, un jour où je me promenais dans le coin et qu'il fallait trinquer à ce coup de chance. Il ôta ses skis, les mit sur son épaule et prit les devants, marchant le long d'une trace qu'il devait avoir battue lors de ses premiers essais de skieur. Elle me fit presque de la peine, notre petite maison adossée à la roche, quand je la vis entourée de murs de neige aussi hauts qu'elle. Bruno avait dégagé le toit et creusé tout autour une tranchée, qui s'élargissait devant la porte en formant une terrasse. En entrant, j'eus l'impression de descendre au fond d'une tanière. Je la trouvais chaleureuse, accueillante, plus remplie et en désordre qu'à l'accoutumée. La fenêtre était aveugle à présent et il n'y avait rien d'autre à observer que les strates de blanc derrière la vitre. J'eus à peine le temps d'enlever ma veste et de m'asseoir à table que quelque chose alla se fracasser contre les planches du toit, faisant un bruit sourd, semblable à celui d'un plongeon. Par réflexe, je regardais le plafond, de peur qu'il ne me tombe sur la tête. Bruno se mit à rire. Il dit « Tu les as bien fixées, les poutres, l'autre fois. C'est le moment de voir si le toit tient le coup. » Des plongeons comme celui-là, il en arrivait sans arrêt, et il n'y faisait même plus attention. Quand je m'y fus habitué à mon tour, je commençais à remarquer les changements. Bruno avait mis des étagères supplémentaires, planté des clous au mur et avait rempli la pièce de ses livres, de ses vêtements, de ses outils, lui donnant un aspect qu'elle n'avait jamais eu avec moi, celui d'une maison habitée. Il nous servit 2 verres de vin, me dit « Je te dois des excuses. Je suis désolée que ça se soit terminé comme ça l'autre fois. Ça me fait plaisir de te revoir. Je n'y croyais plus. On est toujours amis, pas vrai ?»« Bien sûr, lui dis-je. » Pendant que je commençais à me détendre, il ranima le feu dans le poêle. Il sortit avec le chaudron et le ramena rempli de neige, puis mit celle-ci à fondre pour préparer de la polenta. Il me demanda si ça m'irait de manger un peu de viande ce soir. Je lui dis qu'après une marche pareille, je pourrais manger n'importe quoi. Et il sortit des morceaux de chamois qu'il avait salés, les rinça avec soin et les mit dans une casserole avec du beurre et du vin. Quand l'eau frémit, il y jeta plusieurs poignées de farine jaune. Il sortit un 2e litre de rouge pour nous tenir compagnie en attendant que ça cuise. Et 2 verres plus tard, tandis que l'odeur forte du sauvage se diffusait dans la maison, je commençais à me sentir bien moi aussi. Bruno dit « J'étais en colère. Et j'étais d'autant plus en colère que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Le fait est que c'est moi qui me suis mis tout seul dans le pétrin. Personne ne m'y a poussé. Quelle idée aussi de vouloir jouer les chefs d'entreprise. J'y connais rien, moi, à l'argent. J'aurais dû me construire une petite maison comme celle-là, y monter 4 vaches, et vivre comme ça depuis le début. » Je restais à l'écouter. Je sentais qu'il avait longuement réfléchi et qu'il avait trouvé les réponses qu'il cherchait. Il dit « Il faut faire ce que la vie t'a appris à faire. Si t'es très jeune, à la rigueur, tu peux peut-être encore changer de route. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire « Bon, ça, je suis capable de le faire, ça, pas. » Et je me suis demandé « De quoi suis-je capable, moi ? Moi, je sais vivre en montagne. Qu'on me mette là-haut tout seul et tu verras que je m'en sors. C'est pas rien quand même, non ? Eh bien, il m'a fallu attendre 40 ans avant de comprendre que ça n'était pas donné à tout le monde. J'étais exténuée et me laissais doucement aller dans la chaleur du vin. Et même si je n'étais pas prêt à l'admettre, j'aimais l'entendre parler comme ça. Il y avait quelque chose d'absolu chez Bruno qui m'avait toujours fascinée. Quelque chose d'intègre et de pur que j'admirais chez lui depuis que nous étions gosses. Et sur le moment, dans la petite maison que nous avions construite ensemble, je ne demandais qu'à croire qu'il avait raison. Vivre seul en plein hiver, avec rien d'autre qu'un peu de nourriture, ses mains et ses pensées étaient la seule façon de vivre qui soit juste pour lui. Quand bien même n'importe qui d'autre aurait dit que ce n'était pas une vie. Ce furent les montagnes qui me sortirent de ma rêverie. Plus tard, pendant que nous dînions, j'entendis un bruit différent des plongeons sur le toit. Il y eut d'abord comme le grondement d'un avion ou d'un orage lointain, sauf qu'il fut tout de suite là, assourdissant, un vacarme à faire trembler les verres sur la table. Bruno et moi nous regardâmes, et je vis à cet instant qu'il n'était pas plus préparé que moi, pas moins terrorisé. Au vacarme s'ajouta un autre bruit, celui d'un choc cette fois, quelque chose qui cogne et explose. Et tout de suite après, le fracas baissa d'un ton. Nous commençâmes alors à comprendre que l'avalanche ne nous roulerait pas dessus. Elle était passée tout près, mais cependant ailleurs. Il y eut encore d'autres chutes. On entendit quelques éboulis plus timides, puis le silence se fit aussi brusquement qu'il avait été brisé. Quand plus rien ne bougea, nous sortîmes pour tenter de comprendre. Mais il faisait nuit, il n'y avait pas de lune, rien d'autre à voir que le noir. De retour à la maison, Bruno n'avait plus le cœur à discuter, et moi non plus. Nous allâmes nous coucher, mais 1 heure plus tard, je l'entendis se lever, jeter des bûches dans le poêle, se verser à boire. En sortant de ce trou au petit matin, nous nous retrouvâmes dans la lumière qui suit les longues tempêtes de neige. Le soleil derrière nous resplendissait et la montagne devant éblouissait la combe. Nous vîmes tout de suite ce qui s'était passé. Le couloir principal du Gronon, celui-là même que Bruno avait dévalé quelques heures plus tôt, avait fait tomber une avalanche qui partait 3 ou 4 mètres plus haut, au plus fort de la pente. Dans sa chute, la neige avait raclé la montagne en profondeur, au point de dénuder la roche qu'il y avait en dessous et de charrier terre et blocaille. Le grand couloir ressemblait à une plaie obscure à présent. Après une chute de 500 mètres, l'avalanche était allée se fracasser dans la combe avec une telle force qu'elle avait défoncé la glace du lac. C'était ça le deuxième bruit que nous avions entendu. Au pied du couloir, il n'y avait plus de doux replats, mais un amas de neige sale et de blocs de glaciers, formant comme des séracs. Les corbeaux de haute montagne voltigeaient au-dessus de nous et se posaient tout autour. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui les attirait. Il y avait quelque chose de terrible et de fascinant dans ce spectacle. Et sans avoir à échanger un mot, nous décidâmes de descendre voir la scène de plus près. Les proies que les corbeaux étaient occupés à se partager n'étaient d'autres que des cadavres de poissons. Petites truites d'argent, surprises en pleine léthargie hivernale, arrachées aux eaux noires et denses où elles dormaient, et échouées sur un lit de neige. Qui sait si elles avaient eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait? Ça avait dû être comme une bombe. À en juger les plaques retournées et brisées, la couche de glace faisait plus d'un demi-mètre d'épaisseur. Dessous, l'eau avait déjà recommencé à geler. Mais cette couche de glace était encore fine, transparente, foncée, comme celle que j'avais vue en automne. Des corbeaux se disputaient une truite non loin de là, et sur le moment, la vue de cette ripaille me parut insupportable. Je les chassai en faisant 2 pas et en leur lançant un coup de pied. Sur la neige, il ne restait plus qu'une bouillie rose. « Sépulture céleste, » dit Bruno. « T'as déjà vu un truc pareil, toi ? » demandai-je. « Non, moi non, » répondit-il. Il avait l'air admiratif. J'entendis un hélicoptère approcher. Dans le ciel, il n'y avait pas un nuage ce matin. Sous les premiers rayons du soleil, des corniches glissaient des avancées du Grenon et de petites avalanches partaient des couloirs. C'était comme si la montagne commençait à se libérer de toute la neige qui lui était tombée dessus. L'hélicoptère vola au-dessus de nos têtes, ne remarqua pas notre présence et continua son chemin. Il me revint alors à l'esprit que nous étions à quelques kilomètres à peine des pistes du Mont Rose, un 27 décembre, un matin de soleil et de neige fraîche, une journée idéale pour skier. Peut-être contrôlait-il les routes de là-haut. J'imaginais, vu du ciel, les files de voitures, les parkings bondés, les remontées mécaniques qui tournaient sans discontinuer. Et juste derrière la crête, 2 hommes devant une avalanche, entourés de poissons morts. « Je vais y aller, » dis-je pour la 2e fois en l'espace de 2 semaines. 2 fois j'avais essayé et 2 fois j'avais battu en retraite. « Oui, ça me semble juste, » dit Bruno. « Tu devrais descendre avec moi. » « Encore ?» Je le regardais. Quelque chose lui était passé par la tête qu'il faisait sourire. Il dit « Ça fait combien de temps qu'on est amis ?»« Ça fera 31 ans dans 1 an, je crois, » répondis-je. « Et ça ferait pas aussi 30 ans que tu essaies de me faire descendre ?» Puis il ajouta « T'inquiète pas pour moi. Cette montagne ne m'a jamais fait de mal. » Je ne me rappelle pas grand-chose d'autre de ce matin-là. J'étais choquée et trop triste pour avoir les idées claires. Je me rappelle que j'avais hâte de laisser derrière moi ce lac et cette avalanche. Mais qu'arrivé dans le vallon, je retrouvais le plaisir de la descente. Je rejoignis ma trace de la veille et découvris qu'avec les raquettes, je pouvais descendre en faisant de grands sauts, même dans les endroits les plus raides. Et même plus raide était la pente, plus je pouvais me jeter et me laisser tomber. Je ne m'arrêtais qu'une seule fois, au moment de traverser le torrent, parce que j'avais pensé à quelque chose et voulais vérifier si c'était vrai. Je descendis entre les 2 rives enneigées et creusai le lit avec mes gants. Juste en dessous, je trouvai de la glace, une couche fine et transparente que je brisai entre mes doigts. Je découvris que cette croûte protégeait une veine d'eau. On ne le voyait pas, ni ne l'entendait, mais mon torrent coulait encore sous la neige. L'hiver 2014 se révéla par la suite pour les Alpes occidentales l'un des plus neigeux des 50 dernières années. Dans les stations de ski en altitude, on mesura 3 mètres de neige fin décembre, 6 fin janvier, 8 fin février. Du Népal, en lisant ces chiffres, j'avais de la peine à imaginer ce que pouvait donner 8 mètres de neige en haute montagne. C'était assez pour ensevelir les bois, et bien plus qu'il n'en faut pour ensevelir une maison. Un jour de mars, Lara m'écrivit de lui téléphoner dès que je le pouvais. Elle me dit ensuite de vive voix qu'on ne trouvait plus Bruno. Ses cousins étaient montés prendre des nouvelles, mais à la barbe, ça faisait longtemps que la neige n'avait pas été dégagée. La maisonnette avait disparu et la paroi de roche elle-même était à peine visible. Les cousins avaient appelé les secours et une équipe envoyée en hélicoptère avait creusé jusqu'à atteindre le toit. Les secouristes avaient fait un trou dans les planches et s'attendaient déjà, comme il arrivait parfois aux vieux montagnards, à trouver Bruno dans son lit, saisi d'un malaise et mort congelé. Mais dans la maison, il n'y avait plus personne. Et il n'y avait pas de traces non plus dehors depuis les dernières chutes de neige. Lara me demandait si j'avais une idée, étant donné que j'étais le dernier à l'avoir vu, et je lui dis de regarder dans la cave s'il n'y avait pas de vieux skis. Non, même eux n'étaient plus là. Les secours alpins commencèrent à battre la zone avec leurs chiens, et pendant une semaine, je l'appelais tous les jours pour avoir des nouvelles. Mais il y avait trop de neige sur le Grenon, et avec le printemps, on entrait dans la pire saison pour les avalanches. En mars, les montagnes en furent martelées. Après tous les malheurs de cet hiver, au cours duquel on recensa 22 morts sur les versants italiens, la disparition d'un montagnard dans le vallon au-dessus de chez lui n'émut plus grand monde. Pour Lara comme pour moi, il parut inutile d'insister pour qu'il continue les recherches. Bruno, il le trouverait avec la fonte. Il referait surface en plein été dans un couloir et les corbeaux le découvriraient en premier. « À ton avis, c'est ce qu'il voulait ?» me demanda Lara au téléphone. « Non, je ne crois pas, » mentis-je. « Tu arrivais à le comprendre, pas vrai ? Vous vous compreniez tous les deux. J'espère. Parce que moi, parfois, je me dis que je ne l'ai même pas connu. » Mais alors, me demandai-je, qui d'autre que moi l'avait connu sur cette terre ? Et qui d'autre que Bruno m'avait connu, moi ? Si tout ce que nous avions partagé était demeuré notre secret, qu'en restait-il maintenant que l'un de nous deux n'était plus ? Quand ces jours finirent, la ville me parut insupportable, et je décidai d'aller faire un tour seul en montagne. Le printemps était une saison splendide dans l'Himalaya. Le vert des rizières domine le flanc des vallées. Un peu plus haut fleurissent les forêts de rhododendrons. Mais je ne voulais ni revenir dans un endroit que je connaissais, ni remonter le cours d'aucun souvenir. Je choisis une zone où je n'avais encore jamais mis les pieds, achetai une carte et me mis en route. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti la liberté et la joie de l'exploration. À un moment donné, je dus abandonner le sentier, remontai une pente et atteignis une crête, juste pour le plaisir de découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté, et de m'arrêter par hasard dans un village qui me plaisait, passant un après-midi entier au milieu des flaques d'un torrent. C'était ça, notre façon d'aller en montagne, à Bruno et à moi. Et je me dis que ce serait aussi ma façon, les années qui suivraient, de garder notre secret. Il y avait bien une maison, là-haut, à la Barma, qui avait le toit percé, et ça ne lui laissait plus beaucoup de temps à vivre. Mais je sentais aussi qu'elle ne servait plus à rien. Et j'y pensais comme à une chose lointaine. De mon père, j'avais appris, longtemps après avoir arrêté de le suivre sur les sentiers, que dans certaines vies, il existe des montagnes auxquelles il est impossible de retourner. Que dans les vies comme la sienne ou la mienne, il est impossible de retourner à la montagne qui est au centre de toutes les autres et au début de l'histoire de chacun. Et qu'il ne reste qu'à errer sur les 8 montagnes à celui qui, comme nous, sur la première et la plus haute, a perdu un ami. C'était Chantal Hébert pour « Je vous emmène ». Merci de m'avoir accompagnée toutes ces dernières semaines durant la lecture des 8 montagnes de Paolo Cognetti, prix Médicis 2017. Si vous avez envie que je vous emmène vers d'autres horizons, la forêt, la campagne, la plage, l'étranger. Vous pouvez laisser un message sur la page Facebook de Globule Radio ou écrire à la radio. Globule Radio, 730 Chemin des Cristalliers, 74 400, Chamonix. À la réalisation, Kirstine McKenzie et Jean-Claude Aragon. Merci beaucoup, à une prochaine!
Retrouvez tous les épisodes de Je vous emmène sur globule.chamonix.radio, menu podcast. Dans cette première série, vous avez entendu Chantal Hébert vous lire Les 8 montagnes de Paolo Cognetti.